Conte d'hiver, quatre esquisses à la pièce de Shakespeare pour orchestre. C'est l'opus 18 du compositeur suédois Lars-Erik Larsson, une œuvre écrite en 1938. Andrew Manse dirigeait l'orchestre symphonique d'Helsingborg. C'est la lecture de la pièce de Shakespeare qui a inspiré cette musique charmante au compositeur suédois. La même pièce a servi de livret pour un opéra qui a été mis en musique par Philippe Boissement et créé à la Monnaie de Bruxelles en 1999. La pièce a également été portée à l'écran et joue un rôle essentiel dans le film de Romer, Un conte d'hiver. Et puisque je fais allusion au cinéma, restons-y, le temps d'écouter la bande originale d'un film dont le titre nous laisse penser que nous allons être plongés dans la magie de Noël, alors qu'il nous précipite en temps de guerre. Merry Christmas, Mr. Lawrence. On le connaît aussi sous le titre de Furio. Et ce film a décroché plusieurs récompenses, dont le prix de la meilleure musique de film. En 1942, le capitaine Yonoi est le commandant d'un camp de prisonniers de guerre situé dans une province de Java, occupée par les Japonais. Le scénario explore la relation complexe entre le capitaine, un officier japonais, et deux prisonniers britanniques, le major Sellier et le colonel Lawrence, dont la relation avec Yonoi devient centrale. Le titre « Merry Christmas, Mr. Lawrence » fait référence à une scène clé du film, au moment où l'officier japonais Yonoi souhaite un joyeux Noël au colonel Lawrence. Cette salutation, apparemment innocente et empreinte de courtoisie, contraste profondément avec la violence et la souffrance présentes dans le camp des prisonniers. Le titre « Merry Christmas, Mr. Lawrence » symbolise également la rencontre entre deux cultures, occidentales et japonaises, et la distance émotionnelle et tous ces malentendus entre les personnages, soulignant une forme de lien humain fragile au milieu de la guerre. Le « Merry Christmas » représente un moment de répit et d'humanité dans un environnement où la guerre semble avoir effacé tout sens de paix ou de festivité, tout un symbole.
Thank you.
Lang Lang était au piano pour interpréter le thème original de Merry Christmas, Mr. Lawrence, un film de Nagisa Oshima sorti en 1983, qu'on connaît également sous le titre de Furio. Furio, c'était le nom que les soldats japonais donnaient aux prisonniers de guerre. La bande originale du film est l'œuvre de Ryuichi Sakamoto. Merci d'écouter Espace 2. L'Oreille d'abord vous propose aujourd'hui 8 histoires de Noël à découvrir en musique. S'il est un symbole qui à lui seul évoque Noël, c'est bien le sapin. Connaissez-vous ce conte d'Andersen qui le met à l'honneur? Il a pour titre Le Petit Sapin. Il est moins connu que La Petite Fille aux Allumettes, mais tout aussi tragique et beau. Publié en 1844, il annonce des sujets sensibles très actuels comme la déforestation. Le conte raconte l'histoire d'un petit sapin qui pousse au milieu de grands arbres dans la forêt profonde à l'abri des regards. Jaloux des grands arbres à ses côtés, il aimerait pousser plus vite. De temps à autre, les grands arbres sont abattus et des légendes merveilleuses circulent dans la forêt. Ils deviennent de grands mâts pour bateaux, traversent les océans, sont décorés par des enfants dans des maisons chaleureuses. Le petit sapin les envie tellement. Et puis un jour, le petit sapin est lui aussi coupé pour Noël et connaît son moment de gloire, décoré, illuminé de bougies. Toutefois, le lendemain de Noël, la fête est finie et le petit sapin est dépouillé de ses décorations et rangé au grenier. Il y rencontre des souris à qui il raconte des histoires jusqu'à ce qu'elles ne se lassent et s'en aillent. Au printemps, le sapin est sorti dans la cour, coupé en morceaux et puis brûlé. Le sapin, c'est aussi le titre d'un lied méconnu de Richard Wagner. Lied que voici.
Zu dieser Stadt. Darüber
Thomas Hampson, accompagné par Jeffrey Parsons, nous racontait l'histoire du sapin, Der Tannenbaum, un poème de Georg Schörlin qui raconte l'histoire d'un vieil arbre près de mourir. Histoire mise en musique par Richard Wagner. Certains ont vu dans ce lied, composé à Riga en 1838, un pressentiment inconscient du troisième acte de la Valkyrie. Merci d'écouter Espace 2. Nous allons refermer ce grand livre des contes de Noël musicaux avec Arnold Bax, qui lui aussi nous propose une vision mystique de Noël dans un vaste poème symphonique intitulé Christmas Eve, la veille de Noël. À l'origine, le titre complet était Christmas Eve on the Mountains, la veille de Noël dans les montagnes. L'œuvre a été achevée en janvier 1912. Elle n'a été exécutée qu'une seule fois du vivant du compositeur, qui brosse ici le tableau d'une nuit de paix, brillante d'étoiles et claire comme le givre, qui s'abat sur la longue tragédie de l'histoire de l'Irlande. Dans les notes de programme qui accompagnaient la création de ce poème, Arnold Bax explique que c'était surtout le côté atmosphérique, voire mystique de la musique qui l'avait intéressé. L'idée du motif principal de ce poème, écrit-il, m'est venue l'hiver dernier, alors que je musardais un soir dans le magnifique et légendaire Glen na Smol, le comté de Dublin. Il précise qu'il avait essayé de décrire au début du morceau l'éclat lumineux des étoiles dans l'air glacé et l'impression de bonheur, de paix profonde qui cette nuit-là se dégageait des collines irlandaises, normalement peu paisibles, hantées par le souvenir impérissable des actes inhumains d'une tragédie vieille de 800 ans. Bax cite dans sa partition les premières mesures du credo grégorien que Richard Strauss avait lui aussi utilisé dans son poème symphonique « Also sprach Zarathustra ». Ce poème, qu'on donne rarement en concert, se déroule comme une œuvre pastorale, crépusculaire, traversée par des chants chorales solennels, entrecoupés de mélodies à la trompette, avec des sonorités ici et là très irlandaises. Une jolie découverte que voici. Christmas Eve, la nuit de Noël, un poème symphonique pour grand orchestre d'Arnold Bax. Bryden Thompson dirigeait l'Orchestre symphonique de Londres. Ainsi prend fin cette oreille d'abord, proposition de Catherine Buzer, mise en onde aujourd'hui par Marie-Claude Cudry. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle soirée à l'écoute de nos programmes. Il est 17h30 sur RTS Espace 2.
Bonjour, c'est David Christoffel. Je vous donne rendez-vous samedi matin à 10h sur RTS Espace 2 pour l'émission À la limite, l'émission qui sillonne les frontières de la musique classique dans ces zones qui réveillent quelques réserves. Ce samedi, nous parlerons des partitions qui dissimulent des messages d'amour et des œuvres dont des musicologues ont imaginé qu'elles en cachaient sans être toujours tous d'accord. Pour faire un tour des musiques avec muse, plus ou moins cachée et plus ou moins avérée, rendez-vous samedi à 10h sur RTS Espace 2.
Bazar, Sébastien Pache.
Parfois, c'est juste qu'on a besoin de quelque chose, d'une chose diffuse, ou en l'occurrence, d'une chose à diffuser. Parfois, on a besoin de personne, donc on a besoin de quelqu'un, si personne sait quelqu'un. Alors là, certes, on joue un peu sur les mots, parce qu'on aime ça, mais il s'agit ici d'une réflexion musico-philosophique tout à fait fondée, qui s'appuie sur les écrits d'un penseur du XXe siècle bien ancré dans le paysage francophone, à savoir Michel Sardou. Et comme nous en avons l'habitude dans Bazar, les penseurs français, on les cite, mais on ne les diffuse pas forcément. Voyez par exemple Jean-Jacques Rousseau, le Genevois. Est-ce qu'on écoute ses drames lyriques? Est-ce qu'on se met de temps en temps un petit bout du devant du village? Eh ben non. Est-ce qu'il nous arrive d'émettre quelques notes de l'opéra bouffa d'Éric Zemmour, Le Grand Remplacement? Non plus. Avez-vous déjà entendu sur Espace 2 un extrait du cycle de lied chevaleresque « Le calvitier à la rose » de Pierre-Yves Maillard ? Négatif ! Ou peut-être la nuit alors, c'est possible, c'est une possibilité, ça arrive que ça passe. Des fois, la machine se fait un petit plaisir coupable, elle se permet des caresses que seules quelques oreilles nocturnes ont la chance de partager. Ici, vos lobes vous appartiennent, vous êtes avec nous comme vous voulez. Bazar, c'est votre fin de journée en musique jusqu'à 19h30. Thank you. Céline Frisch au clavecin dans la fugue du 16e prélude et fugue en sol mineur tiré du second livre du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Et d'un bar à l'autre, ou d'un bar à l'autre, enfin ça c'est plutôt quelque chose qu'on dit le samedi soir, d'un bar à l'autre, bref, nous passons à Carl-Philippe Emmanuel avec quelques notes de sa musique vocale, un extrait d'une cantate, Les ultimes souffrances du sauveur, portée par une voix de basse et notamment accompagnée de deux bassons. Alors le basson, c'est, dans l'imaginaire populaire, c'est assez grincheux, c'est le grand-père de Pierre et le Loup, de Prokofiev. Bon, comme ici on est dans la musique sacrée, on va imaginer deux évêques, ou deux grands-pères, finalement, ce qui revient un peu au même. Max van Egmond dans un air tiré d'une cantate de Carl-Philippe Emmanuel Bach, Les ultimes souffrances du sauveur, Wie froh wird mir der Anblick sein. Le bass était accompagné de la petite bande de Sigiswald Keuken. Bazar, c'est une manière de pousser la sérénade. Alors, puisqu'elle est là, eh bien, poussons-la. Thank you. Le final de la sérénade pour cordes en mi majeur d'Antonin Dvorak. Charles Mackeras dirigeait le English Chamber Orchestra de Londres. Dans cette composition hautement mélodique qui relève d'un sens tout à fait fin de l'immédiateté. Autrement dit, c'est un tube. Oui, c'est un tube depuis sa parution, cette musique. Dvorak a composé du reste une autre sérénade pour vent, celle-ci. Mais cette sérénade pour cordes, musique tchèque, ô combien tchèque, est une de ses compositions les plus populaires. Puisqu'on est dans le répertoire national, voici quelque chose d'irlandais. Alors c'est pas de choc, mais c'est tout aussi national finalement. Voici les quatre danses irlandaises de Malcolm Arnold. Alors il y en a deux du nord et deux du sud. Je vous laisse deviner lesquelles appartiennent à quelle région géographique de ce pays. Les quatre danses irlandaises de Malcolm Arnold par Brendan Thompson et le Philharmonia Orchestra de Londres. Et puisque nous sommes dans ces charmantes sonorités d'outre-Sarine, mais non. Alors, c'est un cours d'eau également, un peu plus large. Il est plus difficile d'y naviguer et puis on s'y baigne différemment. Surtout c'est ailleurs, c'est la Manche, voilà, c'est cette musique d'outre-Manche. On va y arriver. D'outre-Manche donc avec une composition pour fiddle de James Scott Skinner. Alors la chose intéressante avec James Scott Skinner, mis à part sa carrière et puis le fait qu'il a sorti plus de 600 compositions, eh bien c'est l'histoire de son père. Son père qui était musicien, maître à danser également, et qui, lors d'un mariage, visiblement dans ce mariage on tire des coups de feu pour célébrer, bon, il a pris un coup de fusil à pompe dans la main gauche. C'est ennuyeux, surtout quand on est violoniste. Donc il lui restait que quelques doigts, 2 sur 5, ce qui est peu. Ça dépend surtout lequel. Si on a le pouce et l'index, bon, on a toujours le pouce préhenseur. On peut se débrouiller. On peut tourner une clé, on peut tenir une cuillère, mais jouer du violon, sachant qu'il faut quand même tous les doigts, c'est un peu plus compliqué. Alors, il a changé de main. Il a changé de main, lui, il est passé, il a pris son archet de la main gauche, il a tenu son fiddle de la main droite, voilà, donc il a fallu réapprendre. Son fils n'a pas reçu de coup de fusil à pompe dans la main, ni la droite ni la gauche, ça, on peut vous le certifier. Par contre, il a fait faillite, c'est une autre forme d'accident qui fait mal différemment. une composition du maître à danser James Scott Skinner, The Danebrig of Edinburgh. Phil Cunningham était à l'accordéon, quant à Nicola Benedetti, elle était au violon. Et puisque nous sommes au violon, nous aussi, nous allons poursuivre avec un moment d'écoute privilégié, violonneux, comme on dirait, outre-Atlantique. Le moment d'écoute privilégié que nous vous proposons va privilégier le violon et Antonio Vivaldi. Enfin, les deux à la fois, puisque nous allons écouter un concerto pour violon d'Antonio Vivaldi. Mais un vrai concerto, un vrai de vrai, dans toute son étendue. C'est-à-dire qu'à l'époque baroque, et donc à celle de Vivaldi, le concerto relève plus du concertino, de par son étendue assez réduite. En 8 minutes, on peut poutser tout un concerto, c'est des œuvres très abordables, en 3 mouvements toujours, mais enfin bon, on n'est pas sur du gros morceau. Le concerto baroque, comme n'importe quel concerto qui respecte la forme à l'italienne, c'est 3 mouvements. Un premier rapide, un deuxième lent, un troisième rapide. Comme on aime bien le dire, le premier est pour la tête, le deuxième est pour le cœur, et le troisième est pour les pieds, pour danser, hein, sur les pointes. Alors ce concerto donc que nous allons écouter est d'une catégorie un peu plus costaude, bien que son langage reste tout aussi abordable que n'importe quelle autre œuvre de Vivaldi. Cependant, le violon s'exprime d'une manière plus théâtrale, plus dramatique. Et la difficulté de la pièce est tout à fait redoutable. C'est pour ça que ces pièces sont moins souvent ou plus rarement jouées que d'autres. Les exigences techniques forcément priment un peu sur le reste. Vivaldi, c'est un compositeur qui a été oublié, qui a disparu à sa mort. Alors dire que quelqu'un a disparu